Alors bienvenue à nos amis de la paroisse protestante de Mérin.
Oui, je souhaite la bienvenue à tous et surtout à tous nos paroissiens de l'église protestante. J'espère que Dieu sera avec nous et que vous allez passer un très bon moment. Merci. Pardon.
Bienvenue aussi à nos visiteurs. On a quelques visiteurs qui sont là de passage. Bienvenue aux habitués aussi. Est-ce qu'il y a... Et au niveau des visiteurs, écoutez, alors, soyez aussi les bienvenus. Ben voilà, ça se passe comme ça. Nous allons remettre ce culte dans les mains de notre Père. Oui, Seigneur Jésus, nous aimerions te remettre ce culte. Nous voulons qu'il te glorifie, ce culte. Et merci parce que nous sommes déjà en famille, dans ta famille, la famille Christ. Merci parce que nous nous aimons les uns les autres, Seigneur. Et merci parce que c'est une richesse qui vient de toi. Alors Seigneur Jésus, nous invoquons ta présence parmi nous. Nous voulons aussi penser à ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons de maladie ou des raisons d'absence. Et Seigneur, nous voulons aussi les remettre entre tes mains. Seigneur, merci de nous diriger durant ce moment. Merci pour nous, que tu sois avec nous et que tu diriges aussi notre louange, tu ouvres nos oreilles, notre cœur pour ta présence. Nous voulons t'entendre, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Amen. Alors, je vais proposer aux musiciens de nous rejoindre pour un temps de louange.
Voilà. Cette fois, je vous invite simplement à rentrer dans ce temps de louange avec vos cœurs, avec vos soucis, avec vos joies, qu'on puisse vraiment être ensemble. Réunis avec les deux communautés, en plus c'est une force. Alors je vous invite à entrer dans les portes du Seigneur, avec J'entre dans tes portes.
victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, wow, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons.
Lecture dans le livre de Daniel, chapitre 4.
Moi, Nabucodonosor, j'étais dans ma maison, florissant dans mon palais. Je vis un songe et il m'effrayait. Des rêveries sur ma couche et des visions de mon esprit me tourmentaient. Je donnai l'ordre d'introduire en ma présence tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fissent connaître l'interprétation du songe. Alors entrèrent les magiciens, les conjureurs, les chaldéens et les devins. Je dis le songe en leur présence, et ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. À la fin entra Daniel, surnommé Belshazzar, selon le nom de mon Dieu, qui avait en lui un esprit des dieux saints. Je dis le songe en sa présence. Belshazzar, chef des magiciens, toi qui as en toi, je le sais, un esprit des dieux saints, et qu'aucun mystère ne dépasse, dis-moi les visions du songe que j'ai vu et son interprétation. Dans les visions de mon esprit sur ma couche, je regardais, et voici un arbre au milieu de la terre, dont la hauteur était immense. L'arbre devint grand et fort, sa hauteur parvenait jusqu'au ciel, et sa vue jusqu'aux extrémités de la terre. Son feuillage était beau et abondant, et ses fruits abondants. Il y avait en lui de la nourriture pour tous. Sous lui s'abritaient les bêtes des champs, dans ses ramures demeuraient les oiseaux du ciel, et il se nourrissait de toute chair. Je regardais dans les visions de mon esprit sur ma couche, et voici que descendait du ciel un vigilant, un saint. Il criait avec force et dit
« Abattez l'arbre et coupez ses ramures, dépouillez son feuillage et éparpillez ses fruits, que les bêtes fuient dessous lui et les oiseaux de ses ramures. Mais la souche de ses racines, laissez-la dans la terre. » Avec un lien de fer et de bronze dans la végétation de la campagne. Il sera baigné par la rosée du ciel et il aura en partage l'herbe de la terre avec les bêtes. On changera son cœur pour qu'il ne soit plus un cœur d'homme et un cœur de bête lui sera donné. Puis, 7 périodes passeront sur lui. La chose se fait par décret des vigilants et l'affaire par ordre des saints, afin que les vivants reconnaissent que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes, qu'il la donne à qui il veut et y élève le plus humble des hommes.
Tel est le songe que j'ai vu, moi, le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belshazzar, dis en interprétation, car tous les sages de mon royaume ne peuvent pas me faire connaître l'interprétation. Mais toi, tu le peux, puisque tu as en toi un esprit des dieux saints.
Alors Daniel, surnommé Belshazzar, fut terrifié pendant un moment, et ses réflexions le tourmentèrent. Le roi prit la parole et dit
« Belshazzar, que le songe et son interprétation ne te tourmentent pas. »
Belshazzar répondit et dit
« Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son interprétation pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui devint grand et fort, dont la hauteur parvenait jusqu'au ciel et la vue jusqu'à la terre entière, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, et en qui il y avait de la nourriture pour tous. » sous lequel demeuraient les bêtes des champs et dans le feuillage duquel nichaient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, car tu es devenu grand et fort, ta grandeur a cru et est parvenue jusqu'au ciel et ta souveraineté jusqu'aux extrémités de la terre. Puis le roi a vu un vigilant, un saint, qui descendait du ciel et disait « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Mais la souche de ses racines, laissez-la dans la terre, et avec un lien de fer et de bronze, dans la végétation de la campagne. Il sera baigné par la rosée du ciel, et il aura son partage avec les bêtes sauvages, jusqu'à ce que 7 périodes passent sur lui. Telle est l'interprétation au roi. C'est la décision du Très-Haut qui est parvenue jusqu'à Monseigneur le roi. On va te chasser d'entre les hommes, tu auras ton habitation avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs et on te baignera de la rosée du ciel. Et 7 périodes passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut. Puis on a dit de laisser dans la terre la souche des racines de l'arbre. Ta royauté se prolongera pour toi dès que tu reconnaîtras que le ciel est le maître. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil t'agrée, rachète tes péchés par la justice et tes fautes en ayant pitié des pauvres. Peut-être y aura-t-il une prolongation pour ta tranquillité. »
Tout cela advint au roi Nabuchodonosor. Au terme de 12 mois, il déambulait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit : «
N'est-ce point là Babylone la grande, que j'ai construite comme maison royale par la force de ma puissance à la gloire de ma majesté ? »
La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix tomba du ciel : « On te le dit, ô roi Nabuchodonosor. La royauté t'est retirée. On va te chasser d'entre les hommes. Tu auras ton habitation avec les bêtes sauvages. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Et 7 périodes passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et la donne à qui il veut. » À l'heure même, la chose se réalisa sur Nabuchodonosor. Il fut chassé d'entre les hommes. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs et son corps était baigné par la rosée du ciel, au point que sa chevelure poussa comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux.
Au terme des jours, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la conscience me revint. Je bénis le Très-Haut et je célébrai et glorifiai l'Éternel vivant. Car sa souveraineté est une souveraineté éternelle et sa royauté va de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien, il agit selon sa volonté envers l'armée du ciel et des habitants de la terre. Il n'y a personne qui le frappe de la main et qui lui dise « Que fais-tu ?» À l'instant même, ma conscience me revenait, et pour la gloire de ma royauté, ma majesté et ma splendeur me revenaient. Mes conseillers et mes dignitaires me réclamaient. Je fus rétabli dans ma royauté, et une grandeur extraordinaire me fut donnée de surcroît. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je célèbre, exalte et glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont vérité et ses voies sont justice, et il peut abaisser ceux qui se conduisent avec orgueil. » J'invite Maurice à nous rejoindre. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de ta parole. Merci pour cet exemple aussi dans Daniel 4. Et Seigneur, j'aimerais invoquer ta présence aussi pour que tu parles à nos cœurs au travers du message que va nous donner Maurice, que tes paroles puissent être ses paroles. Et Seigneur, nous voulons être nous un cœur ouvert, des oreilles ouvertes pour entendre ce que toi tu as à nous dire. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te remettre Maurice, et Seigneur, nous voulons te remettre aussi, nous remettre nous entre tes mains pour que nous puissions t'entendre. Amen.
Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun, et notamment aux paroissiens de l'église évangélique de Mérin, que je remercie pour, j'ai pas eu l'occasion de le faire autrement, pour votre aide en tant que communauté pour le 40e anniversaire du centre paroissial écuménique de Mérin. Nous vous avons senti très présents, très engagés, et c'était important pour nous, vous, Roger et Benjamin, bien sûr, et pour cela, je veux exprimer ma reconnaissance. Je crois véritablement que le Seigneur nous appelle à l'écuménisme et que souvent nos réserves par rapport à cet écuménisme sont plutôt liées à des questions d'orgueil spirituel dont il sera question ce matin. Au Moyen-Âge, nous avions une échelle chez les moines de gradation. Donc chaque échelon représentait un niveau de maîtrise de soi, combattre la concupiscence, combattre, la gourmandise, différentes choses. Et chaque fois, le moine montait plus haut sur l'échelle. Le dernier échelon, c'était l'orgueil spirituel. Et là, le moine qui avait réussi à s'élever jusque-là retombait et devait recommencer toute l'escalade. Voilà en introduction, chers amis. Nos cultes de l'été traite des arbres dans la Bible. Benjamin, la semaine dernière, vous a parlé du sycomore avec Zachée. Ce matin, je vous parlerai du cèdre avec le roi Nebuchadnezzar, qui avait une véritable passion pour les arbres. On lui doit les fameux jardins suspendus de Babylone, qui sont une des 7 merveilles du monde. On dit même que Nebuchadnezzar fit transplanter des cèdres du lointain Liban jusqu'à Babylone. L'image de l'arbre n'était donc pas étrange pour Nebuchadnezzar, qui compare Babylone, nous venons de l'entendre, à un grand arbre qui fait de l'ombre pour les peuples. L'arbre procure une protection universelle, décrite dans les mêmes termes. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et tout être vivant s'y abritent et s'y nourrissent. Il se trouve que j'ai chez moi, devant ma fenêtre, à 10 mètres, un immense cèdre. Et c'est oppressant, car il cache la lumière et le ciel. Et il tapisse d'aiguilles le sol. Ça, tout le monde ne le sait pas. Alors, comme j'ai du gravier dessous, j'ai dû amener plusieurs fois des camions de gravier, parce que c'est irrécupérable à moins de tamiser. Bonjour. Le gravier, à la longue, même le gravier, Dieu sait s'il est dur, disparaît. Il faut en remettre. Mais lorsque je navigue sur le lac, c'est un repère. Je situe ma maison sous le cèdre. Et aujourd'hui, avec les 33 degrés annoncés, je serais content de me mettre à l'ombre du cèdre. Bref, un cèdre, c'est bien dans son jardin, mais à 100 mètres de la fenêtre, hein, comme les grandes propriétés de l'époque. Car les branches se cassent pendant les orages et les racines déforment le sol. Il y a 77 références du cèdre dans la Bible, toutes dans l'Ancien Testament. Le cèdre du Liban, le plus grand, est pour les Orientaux le roi des arbres. Le cèdre est aussi considéré par beaucoup comme un arbre sacré, car il est mentionné dans les trois grandes religions comme tel. Et en plus du côté sacré, chez les Libanais, il est symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. Le livre de Daniel est écrit dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il a un style apocalyptique. Et la vision de Daniel, que nous venons d'entendre, se situe en l'an 569 avant Jésus-Christ. Daniel est âgé alors de 54 ans, et le roi Nebuchadnezzar est âgé, lui, de 60 ans. L'arbre représente le roi Nebuchadnezzar. À travers cette image de l'arbre, c'est aussi le caractère orgueilleux de Nebuchadnezzar qui est dénoncé. Parce que cet arbre se dresse jusqu'aux cieux. L'arbre rêvé par Nebuchadnezzar n'est pas un arbre ordinaire. Tout indique sa royauté, sa majesté, sa supériorité. Cet arbre qui s'élève jusqu'au ciel, protecteur et majestueux, constitue en fait une insulte ouverte à Dieu. La même image de l'arbre abritant tous les animaux du ciel est utilisée dans le Nouveau Testament, au chapitre 13 de Luc, pour représenter le royaume de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar devient inconscient des bontés de Dieu à son égard, car s'il a pu conquérir autant de lieux et gagner autant de batailles, c'est bien parce que Dieu l'avait accepté. Ses ambitions s'élèvent comme un affront au Dieu de l'univers, se proclamant lui-même Dieu. Toutefois, dans sa grâce infinie, Dieu est prêt à patienter avec lui, tout en lui multipliant ses avertissements, car il use de patience envers sa créature, ne voulant pas que quiconque périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu avait déjà patienté avec Nebuchadnezzar. Il l'avait averti de diverses façons. Malgré cela, la volonté de Nebuchadnezzar n'a pas fléchi. Ici, au chapitre 4, il est au fait de sa gloire. Plus de tribus à conquérir, de nations à soumettre, de forteresses à détruire. Le monde s'est agenouillé devant lui, un espèce de César. Pour la première fois dans l'histoire, un homme est arrivé au sommet du pouvoir, considéré comme universel. Nebuchadnezzar est tranquille et heureux. Rien ne lui manque sur le plan humain. Et pourtant, l'essentiel lui fait défaut. Mais Dieu, qui désire faire grâce à toutes ses créatures, va lui fournir encore une occasion de fléchir le genou devant lui. Un nouveau songe va l'arrêter, un songe prophétique. Et pour l'interpréter, personne dans son royaume n'en est capable. C'est alors qu'en dernier lieu, on se résout à entendre Daniel. Oui, désolé pour le micro, je vois que ça bouge tout le temps. Daniel, nous dit le texte, se présente de lui-même au roi. Nebuchadnezzar est ainsi acculé à ses derniers recours. Il est obligé d'entendre Daniel. Une fois de plus, le roi fuit la vérité, car elle ne correspond pas à ses aspirations. Et il appelle Daniel uniquement lorsqu'il ne peut pas faire autrement. Daniel explique que le règne du roi sera interrompu par un accès de folie de 7 ans, à cause de son orgueil. Ce roi qui, 20 ou 30 années auparavant, a vaincu les armées égyptiennes du pharaon et les armées assyriennes. Ce roi venait aussi de réussir le siège de la ville de Tyr. Nebuchadnezzar était vraiment le grand roi du moment, le tyran qui avait droit de vie ou de mort sur une population, un territoire gigantesque. À cause de lui, le peuple juif avait quasiment cessé d'exister. Il n'avait plus de territoire, plus d'identité. Le temple avait été rasé, les objets pour le culte dispersés dans les divers temples de Babylone. Comme si les dieux babyloniens étaient au-dessus du dieu d'Israël. Il devenait important pour ce peuple de réaliser que ces événements si tragiques restaient tout de même sous le contrôle de Dieu. Et Dieu, dans son amour, voulait toucher le cœur de ce dictateur. Dieu aime tout le monde. Au verset 24, Daniel, avec compassion, exhorte le roi à se repentir. Il fallait du courage à Daniel pour oser le faire. Et nous sommes appelés au courage dans nos témoignages. Ce n'est pas rien d'avoir bâti Babylone. Lorsque Dieu veut nous parler, il sait toucher la corde sensible de nos cœurs. Il n'est donc pas étonnant qu'un arbre fût l'objet du songe de Nebuchadnezzar. Cet arbre le personnifiait. Il est devenu grand et fort, sa cime s'élève jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de la terre. Nebuchadnezzar était comparable à cet arbre qui portait la nourriture de tous, animaux et oiseaux, se réfugiaient sous son ombre et dans ses branches. L'arbre de Nebuchadnezzar symbolise donc la grande Babylone, parvenue à son sommet, à la fin des temps. Il use d'abord de bonté pour le pousser à la repentance, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un. Mais si par l'endurcissement de son cœur, cet homme méprise la grâce qui lui est faite, il s'amasse un trésor de colère pour la manifestation du juste jugement de Dieu qui aura lieu, ne l'oublions pas. Quand Daniel interpréta le songe de Nebuchadnezzar, il l'engagea à changer de vie. Mais le dictateur rejeta le sage conseil du prophète. Il ne pratiqua pas la justice, ne mit pas un terme à ses iniquités, n'usa pas de compassion envers les malheureux. Mais Dieu lui accorde encore une année de sursis. Dieu est patient. On ne joue pas indéfiniment avec la grâce de Dieu. L'homme doit moissonner à un moment ou l'autre ce qu'il a semé. En un instant, ce roi des rois, qui avait fait trembler le monde, fut frappé d'une maladie appelée la lycanthropie. C'est une affection mentale où le malade se croit devenu un animal. Du roi de l'univers à une bête broutant l'herbe. Il n'y a qu'un pas. Toi qui es debout, prends garde à toi, de peur que tu ne tombes. L'orgueil, péché de Nebuchadnezzar, est un poison universel. Il tue le sentiment du besoin de Dieu. Il élève des murs entre les hommes. Il empêche la remise en question de soi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui lui plaît. Dieu domine sur le règne des hommes. Il se rit de l'audace de ses dictateurs, chefs d'État, on pourrait dire médias aujourd'hui, présidents, ou les roitelets de tout acabit qui se croient tout permis. Il peut encore renverser les trônes, bouleverser les régimes et précipiter des sommets du pouvoir les hommes vaniteux et prétentieux. Car la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, aujourd'hui encore. Le croyons-nous ? Laissons-nous donc inspirer par la Bible pour comprendre comment Dieu arrête des hommes élevés en dignité et que l'étude de ce chapitre nous pousse à prier avec intelligence pour les autorités et pour les nations. L'homme peut être revêtu de majesté, mais il la perd dès qu'il oublie d'où elle lui vient ou qu'il s'en attribue le mérite. Le jugement de Dieu s'abattit sur Nebuchadnezzar au moment même où, pétri d'orgueil, il faisait l'étalage de ses réalisations. Dieu fait grâce. Il donne encore un sursis à Nebuchadnezzar. L'arbre est coupé, les branches et tout ce qui fait sa majesté, mais la souche où se trouvent les racines est laissée en terre. C'est la bonne nouvelle. Dieu ôte le pouvoir au dictateur, mais lui laisse la vie, afin qu'il apprenne parmi les animaux la leçon qu'il n'a pas voulu apprendre parmi les hommes. Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, partagea le sort des animaux, qui en principe regardent par terre. Mais au bout de 7 ans, ce brouteur humain, privé de raison, leva les yeux. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Dès l'instant où Nebuchadnezzar leva les yeux vers Dieu, sa raison lui revint. Sa première préoccupation fut celle de bénir le Très-Haut et de lui rendre grâce. Dieu sauve. Il avait suffi à Nebuchadnezzar de lever les yeux pour que la raison lui revienne. Or, quiconque lève les yeux vers Dieu pour obtenir grâce, aujourd'hui encore, il suffit aux pécheurs repentants de regarder à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Si Dieu fait grâce, il attend de nous que cette grâce produise du fruit dans nos vies et dans l'Église. Ou servir ne doit plus se traduire par se servir. La conversion du roi Nebuchadnezzar est principalement due à Daniel. Il influença le roi par sa reconnaissance constante de Dieu comme la source de sa sagesse. Daniel représente ici ceux qui, conduits par l'Esprit, ont une influence positive sur l'Église et le monde. Pour conclure, parce qu'il y en a une, comme le dit l'Épître aux Romains, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Daniel nous fait donc voir comment les hommes changent le pouvoir, l'autorité, la gloire qu'ils tiennent de Dieu en un moyen de satisfaire leur propre orgueil. La conséquence d'une pareille conduite est que toute intelligence de la pensée de Dieu l'aurait enlevé. La voix du Seigneur brise cet orgueil lorsqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, rechercher l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Puissions-nous rendre, comme Daniel, non seulement un culte, mais notre vie à Dieu pour qu'il la fasse briller. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je vous propose de garder ces paroles, les paroles de Maurice, pour un moment de prière libre que nous aurons pendant la distribution de la Sainte Cène. Et j'aimerais introduire ce moment par une lecture dans Ésaïe. Ésaïe 53. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi, comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté ni prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de notre péché. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Quel contraste avec le bel arbre de Nabucodonosor dans Daniel 4. Et cette petite plante, ce petit arbrisseau qui a grandi devant le Seigneur dans ce chapitre d'Ésaïe 53. Le premier, sa hauteur parvenait jusqu'au ciel, alors que le deuxième était une petite racine qui sortait de terre sèche. L'orgueil du premier était magistral, mais l'humilité du deuxième était ô combien incommensurable. Le point commun entre ce roi magnifique, entre le roi magnifique et le petit serveur humble, c'est bien qu'ils ont porté tous les deux l'orgueil. À la différence près que le roi a porté le sien d'orgueil. mais le petit serviteur a porté le nôtre. En conclusion, je dirais que ce bel arbre a été abaissé et a finalement reconnu cette présence de Dieu. Et la petite plante a été élevée et s'est assise à la droite de Dieu. Alors en prenant le pain et le vin, en nous rappelant que notre orgueil a passé ce petit arbrisseau par la douleur de la croix, et qu'il nous permet aussi d'être élevés avec lui auprès de notre Père Céleste pour l'éternité. Nous lisons l'introduction, nous lisons l'institution de la Sainte Cène.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Seigneur, au moment de prendre ce repas, nous voulons te remercier pour ce pain et ce vin. Nous déposons au pied de ta croix tout ce qui t'attriste dans nos vies, tout ce qui limite ton action dans nos vies. Te disons merci pour ta patience, pour ta grâce, pour ton intelligence à rencontrer nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Alors nous allons passer avec le pain et le vin dans les rangs. Donc, dans ces couronnes, il y a à l'extérieur le vin, à l'intérieur le jus de raisin. Si vous voulez boire à la coupe, vous avez qu'à lever la main. Et puis Maurice viendra vers vous. Profitons aussi de ce temps de distribution, aussi ce temps un peu calme, pour donner des prières, envoyer des prières à Dieu. Et je pense, c'est vrai que par rapport à l'orgueil, qu'elle soit spirituelle ou... Je crois que c'est une lutte de tous les jours pour chacun d'entre nous. Alors prions. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons être devant toi avec notre être intérieur, avec tout ce qui nous retient, nos doutes, notre orgueil, tout ce qui empêche de te rencontrer. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons que toi, tu sois présent dans nos vies. Nous voulons t'ouvrir toutes les parties de nos vies. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre entre tes mains, nous remettre entre tes mains. Amen.
l'as fait, Seigneur, pour nous relever, nous qui étions tombés au plus bas. Nous te louons pour ce que tu as choisi d'exercer la grâce, faire preuve de ton amour envers nous en Jésus. Amen.
Seigneur, je veux te dire merci. Merci, tu m'as fait ta grâce. Et je vais te demander aussi de montrer l'orgueil. Et plutôt de guider sur le chemin de la femme humble. Seigneur, que ta grâce se répande sur tout le monde. Matin aussi, je dis merci pour mes enfants. Je dis merci pour ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Je dis merci pour ce repas que nous venons de prendre. Tu ne nous montres jamais du bien du fait dans notre maison, dans notre vie. Merci pour cette grâce.
Je propose que nous concluions ce moment de Sainte-Cène par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je propose aux musiciens qui nous rejoignent, nous allons avoir le moment d'offrande. Alors, je n'ai pas de petit jeu de mots pour dire l'offrande, ça sera un peu traditionnel. Alors, je demanderai à Daniel aussi de venir avec moi. Et pendant l'offrande, donc, nous aurons le chant « Alléluia, le Seigneur règne ».
Thank you.
Nous voulons remettre cette offrande. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre notre offrande. Et Seigneur, que tu la bénisses, que tu bénisses ceux qui vont l'utiliser, Seigneur. Que cet argent soit aussi un outil pour toi, pour faire avancer ton royaume. Alors Seigneur Jésus, merci pour notre participation aussi à ton royaume. Amen. Voilà, je vais peut-être céder la parole à Roger Sewell. Je crois qu'il nous aurons un adieu à dire à quelqu'un qui est avec nous pendant une année. Et je lui laisse la parole.
Voilà, on veut dire au revoir à Benjamin Tzichuen. C'est déjà une année qu'ils sont avec nous. Ils ont commencé le 1er août. Et on dit au revoir aujourd'hui parce qu'il reste des vacances. Mais est-ce que je peux vous inviter à vous avancer? Michel, tu viens aussi?
Moi, je viens seulement
s'il vient. Oui, ça arrive. Oui, oui. D'abord, j'aimerais juste vous laisser une parole d'encouragement qui est tirée d'un Corinthien. C'est pourquoi, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Alors, vous avez travaillé avec zèle. Parmi nous, on veut vous dire merci officiellement ce matin. On a dit en deux mots au colloque, mais vous êtes investi. Zichuan, tu es secondé Benjamin en prenant soin de Naomi et Elias et de Benjamin. Et Benjamin, tu as pris soin de nous en t'investissant. Dans l'Église, dans son ensemble, dans de domaines particuliers, le caté, free time, mais en pouvant vivre aussi ensemble, au quotidien, le désir de nous investir pour l'Église en priant et dans les diverses activités. Donc, je profite pour dire personnellement combien j'ai apprécié ce temps de partage, de pouvoir vivre ensemble le ministère. Et c'était aussi, comme j'ai dit, me semble, hier, c'est un apprentissage pour nous deux, où le Seigneur a pu nous apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous remercie d'avoir choisi de venir au milieu de nous, et nous voulons vous confier à la grâce de Dieu.
Alors, Benjamin Tichon, c'est juste une petite attention pour vous accompagner encore un petit peu plus loin de la part de l'Église, pour votre famille, tout simplement.
Et puis, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant justement qu'on vous confie au Seigneur.
Nous arrivons au terme de ce stage et on a eu, les deux, beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à apprendre qui vous êtes, à vous connaître, à séjourner à Mérin. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de joie pour nous. C'est aussi été l'occasion de passer d'une phase un petit peu théorique des études de théologie à une phase plus pratique. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir voir comment vous viviez votre relation avec Dieu. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs visites avec Roger, de discuter avec plusieurs d'entre vous, et de voir que chacun a une histoire personnelle avec Dieu, et que dans toutes ces histoires, Dieu prend. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché durant cette année.
Voilà. tu laisses à Benjamin d'être porte-parole.
Oui. Oui.
Alors, il y a un autre adieu dans la Bible que je lis et puis je trouve que c'est aussi très, très approprié. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je propose de prier pour conclure. Oui, Seigneur, nous désirons confier Benjamin, Zichuan, Naomi, Elias à ta grâce, confiant que tu as le pouvoir de les garder dans les prochaines étapes de leur parcours, de leur montrer quelle est ta volonté et de les maintenir tout près de toi jusqu'à ce que le jour que tu les invites à entrer pleinement dans l'héritage qui leur est réservé. Nous te prions, Seigneur, de continuer à les conduire dans tes voies, de faire valoir les talents que tu investis dans leur vie. Nous invoquons ta bénédiction sur leur ministère futur. Et nous te prions de les mettre en bénédiction à beaucoup, à la gloire de ton nom. Amen.
Alors, quelques informations sur la suite. Donc, nous avions un bail à durée déterminée, donc on déménage le 29 juillet. Donc ça, c'est la chose qui est sûre. Et il y a au moins une chose de sûre, c'est déjà pas mal. Donc, on va faire un petit séjour à Cossonay. Donc, chez ma maman, elle a une grande maison avec pas mal de place qui peut faire garde-meuble et qui pourra nous accueillir quelque temps. Et on est un peu en attente pour la suite. Donc, on ne sait pas encore où on va aller. Donc, voilà les informations que j'ai pour le moment. Et nous attendons un peu que Dieu nous conduise sur le bon chemin. On a exploré plusieurs pistes jusqu'à présent. Pour le moment, aucune n'a abouti. Et puis, Dieu a un plan et il ne manquera pas de se réaliser.
Des annonces ? Quelques annonces ?
Juste peut-être, Henri et Martine Bachet ont fait un petit clip qui est en lien un petit peu avec toutes les prédications qui vont avoir lieu pendant l'été. Donc, il dure 3 minutes. Donc, je profite que Martine est là pour le passer. Et c'est vrai que c'est un peu en lien avec les prédications, y compris celle de Maurice. Donc, si vous pouvez assombrir la salle et puis passer ce clip, on m'a bien recommandé que la salle soit sombre.
Imagine que tu sois un arbre, un grand arbre, un arbre qui offre protection, abri, réconfort, joie de vivre, paix et espérance. Un arbre qui a des racines dans la réalité de Dieu et qui est solide face aux difficultés de la vie, face au mépris des autres, face à la maladie, face à la persécution. Un arbre que l'on admire de loin, à qui on voudrait ressembler. La star du parc, quoi. Le conseiller recherché. Le repère incontesté. La mère admirable. Le père respecté. En tant que grand-parent, un arbre qui offre aux enfants d'y construire leur cabane. Et même si on est un peu tordu, on voudrait quand même servir au moins de lieu de repos pour le marcheur fatigué. Hélas, la vie n'est pas toujours aussi idyllique. Le tronc a cassé, maladie, chômage, dissension familiale, divorce. Nos environnements sont complètement déjantés, complètement sinistrés, pas très propices à l'épanouissement personnel. Que faire? Bien des vies ont été maltraitées, mais avec l'aide de Dieu, elles ont repris le dessus. Il reste des cicatrices, mais l'arbre a pu devenir à nouveau un facteur de protection et de développement pour les autres. Une blessure de vie n'est pas toujours synonyme d'échec total. Il y a donc de l'espoir. Parfois, il faut avoir le courage de se transplanter dans un autre univers de vie pour pouvoir prospérer. Avec Dieu, c'est possible. La communauté chrétienne, c'est comme un jardin botanique au milieu de la ville. Elle nous offre un nouveau terreau pour prospérer. Avec des jardiniers prêtres, pasteurs, spécialement formés pour prendre soin, avec l'aide de Dieu, d'une branche cassée, d'un tronc abîmé. Il faut beaucoup de soutien pour aller plus loin. C'est le rôle de la communauté chrétienne. On se fait épauler pour porter nos souffrances, nos ruptures, nos échecs. Si tu es jeune, ne néglige pas le soutien de ta famille. Protège-toi des mauvaises influences, des prédateurs extérieurs. Accepte le rôle du tuteur qui t'aidera à grandir droiture. Oui, tu peux devenir un bel arbre. Non pour être photographié et figuré dans un bel ouvrage de botanique, mais utile pour que d'autres pansent leurs plaies, se redressent, reprennent courage et tiennent bon contre vents et marées.
Merci à Martine et à Henri. Elle est là, Martine, hein? Marie n'est pas là. Bon. Roger, tu avais une annonce, moi j'en ai aussi quelques-unes. Je commence ou tu commences? Je commence, d'accord. Tout d'abord, donc samedi, dimanche prochain, donc, le culte sera à la paroisse protestante de Mérin, au CEPOM, et c'est Philippe Cornu donc, qui sera le prédicateur. Merci à Philippe. Mercredi 20, donc, il y aura une grillade ici dans le jardin. Donc, vous tous amener votre viande. Il y a toujours une bonne ambiance et puis ça discute. C'est sympa. Il y aura aussi, j'ai entendu, un petit apéritif après le culte en l'honneur de Benjamin et Chiswan. Restez parmi nous pour partager ce moment convivial. Et puis, vous trouverez également sur une table l'huile de la fraie. Donc pour soutenir une action, ils en ont encore beaucoup. Donc elle est un peu bradée. Donc si vous cuisinez à l'huile d'olive, venez vers moi. Il y aura tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Est-ce que toi, Roger, je vois qu'il y en a une ici.
Bonjour. Comme vous savez, Dieu, il prend pas de vacances. Alors même si on est en vacances, on est content que Dieu, il vienne jamais. On a un groupe du lundi avec les mamans. Nous nous réunissons de 14h à 16h ici en bas. Et puis, ben, pendant les vacances, ça continue. Donc, si vous êtes bienvenue, si vous êtes maman avec des enfants ou petits-enfants, grand-maman, et que vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Ça continue. Clémentine et moi, on est en principe toujours présentes. Et puis, si l'une ou l'autre n'est pas là, y a, en principe, la porte est ouverte. Donc, venez avec nous, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous pouvez venir quand vous voulez.
J'aimerais juste ajouter que pour les enfants, il y a garderie proposée, accompagnement pendant l'été. Il y a un actu Mérin qui a été envoyé où on peut s'inscrire dans un doodle selon nos disponibilités de consacrer l'un ou l'autre des dimanches de ce mois de juillet ou mois d'août pour accompagner les enfants dans nos cultes partagés. Donc, il y a encore de la place pour s'inscrire. On vient de vivre la semaine potentielle. Il y a 2 semaines de Kids Games qui se préparent pour le mois d'août. Donc, si vous connaissez des jeunes qui sont par là, c'est aussi une activité à recommander. Claude a parlé des grillades. Il y a une liste où on peut s'inscrire pour les différentes dates. Ça s'est fait d'une manière collégiale mercredi dernier, mais c'est bien d'avoir un responsable, si vous êtes d'accord, de coordonner ces moments de grillade. La liste est sur le tableau, qui a été réorganisé. Maintenant, on peut se repérer plus facilement quant aux activités. Merci. Excusez-moi. Et puis, juste pour signaler que Dominique et moi, nous partons cet après-midi jusqu'à la fin du mois.
Repose-toi bien. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous renouvellent pour son service et pour le service de tous, qu'il nous donne de nous engager chaque jour dans la joie du Christ ressuscité. Amen.